Shalom, chers amis, nous nous approchons de la fête de Hanouka, fête remarquable, fête vénérable, qui est d'ailleurs connue dans le monde entier, qui peut-être par une coïncidence, à cause de la proximité de la fête de Noël, est considérée comme le Noël des Juifs. La fête de Hanouka commémore et célèbre un événement fondamental, un événement capital de l'histoire d'Israël, la libération de la Judée et la purification du Temple après la domination très prolongée des Grecs, séleucides, en Eretz Israël, qui avaient souillé le Temple, qui avaient essayé d'introduire la culture hellénistique chez les Hébreux, et une petite poignée de prêtres de la famille des Kohanim, la famille des Hashmonaïm, s'est révoltée et n'a pas accepté la situation. Et finalement, après une guerre vaillante, d'une petite poignée de soldats contre un empire gigantesque, finalement, la Judée a retrouvé son indépendance et il y a eu donc la fête de Hanouka pour célébrer cet événement. Associé à cela, également un petit miracle d'importance qui s'est produit dans le temple au moment de la libération, c'est qu'on n'avait pas trouvé de fiole d'huile en quantité suffisante pour allumer le candélabre du temple. Or, cette huile doit être pure. On ne sert pas de n'importe quelle huile, il faut qu'elle soit pure. Et ça prend 8 jours pour en préparer. Et on a trouvé seulement une fiole avec de l'huile qui suffisait pour un seul jour. Et la fiole a suffi pour allumer pendant 8 jours. Donc, miracle, donc élément très important de la fête de Hanouka, qui est une fête de la lumière. D'après la loi juive, la halakha, il y a 2 commandements qui doivent être accomplis pendant les 8 jours de Hanouka. Le premier des commandements est peut-être moins connu, mais en vérité, il est plus essentiel. C'est la récitation des louanges qu'on appelle le Hallel. Chaque matin, des 8 jours de Hanouka, on récite le Hallel. Et puis, le soir, on allume des bougies à l'entrée des maisons pour illuminer l'extérieur en souvenir du miracle de la fiole. Mais l'essentiel, c'est le Hallel qui a été institué non pas à cause du miracle de la fiole, mais pour célébrer l'indépendance d'Israël. Cet événement est extrêmement important pour l'humanité tout entière. En effet, s'il n'y avait pas eu cette révolte, eh bien, le monde entier serait resté sous la coupe de la civilisation hellénistique, mais pire que cela, le monde serait resté païen. C'est le polythéisme qui l'aurait emporté, et le monothéisme, en fait, serait resté un folklore local, un peu curieux, de quelques juifs en Judée, mais l'opinion générale serait restée l'idolâtrie. Et on ne peut pas ne pas remarquer, si on voit l'ensemble de l'histoire, que la victoire des Maccabées, ou des Hashmonaïm, comme on dit en hébreu, a été très importante pour faire avancer le monothéisme dans le monde. Aujourd'hui, le monothéisme est devenu la norme de la vie religieuse dans le monde entier. Entre autres, par le christianisme et par l'islam. Mais on peut dire que ça va encore beaucoup plus loin. Il y a des sphères de civilisation, par exemple en Inde, en Chine, où même sans tradition chrétienne ou musulmane, il y a une tendance aujourd'hui à expliquer même le polythéisme comme étant une forme de monothéisme. Et tout cela a commencé par le petit village de quelques irréductibles dans la région de Jérusalem qui ont décidé de ne pas accepter la domination non seulement des Grecs, mais de leur civilisation. On peut dire que la possibilité que j'ai aujourd'hui de vous parler, vous, nos amis noachides dans le monde entier, et que mes paroles aient un sens pour vous, tout cela a commencé grâce à cette petite poignée de prêtres de Modi'in à côté de Jérusalem. Et la lutte n'était pas une lutte facile, parce que nous avons lutté pendant notre histoire contre plusieurs empires, contre Pharaon, contre les Assyriens, contre les Babyloniens, contre les Perses, contre les Romains. Mais à chaque fois, il s'agissait surtout d'une lutte d'ordre politique. Tandis que lorsque nous avons lutté contre les Grecs, eh bien c'était une lutte d'ordre spirituel. C'était surtout un renversement du schéma de la civilisation dont il était question. Et nos sages ont été très loin dans l'interprétation de la Bible pour y chercher les sources de cet affrontement. Et nos sages ont trouvé cela dans le récit de la création du monde. En effet, vous connaissez le récit de la création du monde tel qu'en parle la Torah. Ça commence par un premier verset, « Bereshit bara Elohim ». Au début, Dieu a créé le ciel et la terre. Et puis après la description de « Dieu a créé le ciel et la terre », la Torah nous dit qu'il y a eu un désordre. « Ve'aretz haïta tohu vavohu ». La terre était désordre, elle était étourdissement, elle était obscurité au-dessus de l'abîme. Un souffle divin planait sur la surface de l'eau. Eh bien, c'est quoi ce désordre, cet étourdissement? Les rabbins ont dit que ça se traduit dans l'histoire par les empires qui ont bouleversé l'humanité. Et le premier des empires, les Babyloniens, correspondent à ce que la Torah appelle le Tohu, c'est-à-dire le bouleversement. Et puis, ce que la Torah appelle l'étourdissement, Bohu, c'est l'empire perse. Et puis ce que la Torah appelle obscurité, Rocher, eh bien il s'agit de l'empire grec. Et ce que la Torah appelle l'abîme, Tehom, il s'agit de Rome. Et le souffle divin qui planait sur l'eau, il s'agit du souffle messianique qui vient renverser tout cela pour amener la rédemption de l'humanité. Et là je voudrais m'arrêter avec vous sur le troisième élément, obscurité. Nos maîtres ont dit « l'obscurité, c'est la Grèce ». Cette opinion, cette interprétation peut paraître, à première vue, extrêmement obscurantiste. Comment, en effet, désigner en particulier la civilisation hellénistique comme étant l'obscurité, alors que ce sont les Grecs qui ont amené au monde la lumière. Ils ont amené la lumière de l'esthétique, la lumière de la philosophie, la lumière de la démocratie, et la lumière de l'esprit scientifique. Tout cela nous vient des Grecs. Comment, après tout cela, après cette contribution extraordinaire des Grecs à l'humanité, nos rabbins ont pu dire « la Grèce, c'est l'obscurité ». Il faut bien comprendre que pour les rabbins étaient tout à fait informés de la lumière des Grecs. Mais pour les rabbins, ça veut dire que quand il y a une lumière qui entre en rivalité avec une autre lumière, alors chaque lumière obscurcit l'autre lumière. C'est parce que la Grèce est lumière qu'elle nous obscurcit. Comment cela? Tout simplement parce que pour les Grecs, la lumière de la science humaine, c'est une lumière qui exclut la révélation de la parole de Dieu. Pour bien comprendre cela, il faut en faire un petit historique. La première fois que les Grecs ont rencontré les Juifs, ils ont été frappés, ils ont été pris d'admiration. Nous avons des témoignages, par exemple, d'un des élèves d'Aristote qui s'appelait Cléarque. Aristote, comme vous le savez, était le précepteur d'Alexandre le Grand qui a amené les Grecs à conquérir le monde. Eh bien, Cléarque raconte que Aristote, donc le précepteur d'Alexandre, quand il a rencontré un juif sage du nom de Siméon. Siméon, c'est probablement celui que dans notre tradition nous appelons Shimon HaTzadik, Simon le Juste, qui était grand prêtre de Jérusalem. Et Aristote, d'après le témoignage de son élève, a été très impressionné par ce juif, qui était tellement sage, dit-il, qu'on aurait pu le prendre pour un grec. Alors vous remarquez tout de suite que pour un grec, ce qui va définir comme quelqu'un comme étant valable, c'est seulement s'il est capable de s'acquitter des exigences de la civilisation hellénistique. Il n'y a pas de valeur pour ce qui n'est pas grec. On peut dire à la limite que pour un grec, chaque civilisation, chaque identité humaine n'est qu'un cas particulier d'un grand schéma qui est le schéma grec. C'est-à-dire que, on pourrait dire que dans leur vision du monde, pour les Grecs, un Égyptien, c'est un Grec à la mode égyptienne. Et qu'est-ce que c'est qu'un Babylonien? Eh bien, c'est un Grec à la mode babylonienne. Et qu'est-ce que c'est qu'un Juif? Eh bien, c'est un Grec à la mode juive. Mais fondamentalement, c'est tout la même chose. Il y a une civilisation qui efface les particularités, qui efface ce qui fait l'identité humaine dans toute sa richesse. Et effectivement, les Grecs, quand ils ont vu ce que les Juifs avaient à proposer, ils ont découvert la Torah. Ils se sont dit, c'est extraordinaire votre Torah, nous allons la traduire en grec. Effectivement, il y a eu ce qu'on appelle la version des 70. 72 sages ont été invités par Ptolémée, le roi des Ptolémées à Alexandrie en Égypte, pour traduire la Torah en grec, ce qui a donné la version dite des Septante, la Septuaginta, comme on dit en grec. Et pour les Grecs, c'était faire un grand honneur à la Torah, de la traduire en grec, c'est-à-dire de la faire accéder à ce qu'on appelle la culture générale et à poser la Torah, toute la Bible, dans la bibliothèque d'Alexandrie, dans une étagère d'honneur, à côté des œuvres d'Aristote et de Platon. Parce que pour les Grecs, la Torah n'était qu'une sorte de philosophie, la philosophie des Juifs. Et donc, qu'importe dans quelle langue elle est écrite, cette Torah, l'essentiel c'est de faire contribuer la Torah au patrimoine de la sagesse universelle. Le Talmud nous dit que le jour où la Torah a été traduite en grec, eh bien, l'obscurité est arrivée dans le monde, et il y a eu 3 jours d'obscurité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, pour les rabbins, avoir traduit la Torah en grec, c'était ne pas la comprendre en vérité. Parce que la Torah n'est pas une sagesse, ce n'est pas une philosophie parmi les philosophies. La Torah, comme vous le savez très bien, nos chers amis, c'est la parole de Dieu. C'est le Créateur qui se manifeste et qui a quelque chose à dire. À partir du moment où la Torah est traduite dans la langue de la culture universelle, alors c'est comme si ce n'était pas une parole, mais une philosophie. Et c'est cela qui coupe l'humanité tout entière de la source de la vie. Donc le fait que nos ancêtres aient décidé de lutter contre les Grecs, c'était une entreprise non seulement de sauvetage du peuple juif, mais c'était en fait une entreprise de sauvetage de l'humanité tout entière, qui, s'il n'y avait pas eu cette révolte, serait restée coupée des sources de la vie. Et donc, il faut être reconnaissant pour nos ancêtres qui ont veillé à ce que la connaissance de la parole de Dieu soit sauvegardée dans l'humanité à travers le peuple d'Israël, réceptacle de la parole du Créateur. Le problème est que on a effectivement vaincu les Grecs, mais la question qui se pose est-ce que cette victoire militaire est une victoire véritable? Parce qu'on peut se dire, bon, c'est vrai, les Maccabées ont été plus forts que les Grecs. Les Maccabées ont réussi à rétablir l'indépendance politique de la Judée. C'est très bien. Mais peut-être que c'est les Grecs qui ont raison dans le fond. Peut-être que c'est eux qui disent la vérité quand ils affirment que la Torah n'est qu'un cas particulier de la culture universelle et non pas la source de la vie. Il fallait pour cela avoir l'assurance que c'était vrai ce que nous autres, les Juifs, nous disons. Eh bien, c'est pour ça qu'il y a eu un petit miracle, le miracle de la fiole d'huile. La fiole d'huile qui a brûlé pendant 8 jours était, si vous voulez, une sorte de clin d'œil. C'est comme si le Créateur du monde disait « C'est vrai, j'ai cessé de parler aux prophètes, mais je continue à résider en Israël. Je continue à résider dans le temple de Jérusalem et je vous le fais savoir par un petit clin d'œil, ce miracle de la toute petite fiole qui a duré 8 jours. » Cette huile, l'huile du candélabre d'Israël, est restée dans sa pureté. C'est ça qui nous a donné l'assurance que nous avions raison. Et c'est ça qui nous a permis, pendant 2000 ans d'exil, de continuer à subsister dans notre certitude intérieure que nous autres, les Juifs, nous avons quelque chose à transmettre à l'humanité, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous pouvons nous parler. Je voudrais vous entretenir également d'une petite question. Bon, vous allez me dire qu'elle est futile, mais quand même qui a son importance. C'est la date de cette fête. La date de la fête de Hanouka, c'est le 25 du mois de Kislev. Effectivement, les Maccabées, quand ils ont fait l'inauguration du temple renouvelé, quand on a purifié le temple, ont décidé de fêter cela par la présentation de sacrifices spéciaux dans le temple de Jérusalem pendant 8 jours. Et ces 8 jours commencent le 25 du mois de Kislev. Mais pourquoi? Eh bien, la raison est écrite en toutes lettres dans le livre des Maccabées, c'est que 3 ans auparavant, jour pour jour, le 25 du mois de Kislev, le roi Antiochus Épiphane avait souillé le temple de Jérusalem en introduisant une statue de Zeus olympien dans le Saint des Saints et en présentant un porc sur l'autel de Jérusalem. C'était pour inaugurer son temple païen, son temple grec. Et 3 ans plus tard, les Maccabées ont réinauguré le temple de Jérusalem le 25 du mois de Kislev. Bon, vous allez me dire, c'est très joli, mais faisons rebondir la question. Pourquoi est-ce que Antiochus Épiphane, le roi Séleucide, a-t-il décidé d'inaugurer son temple païen à Jérusalem le 25 Kislev? Eh bien, pour cela, il faut revenir 200 ans en arrière. 200 ans auparavant, il y avait eu l'inauguration du Temple de Jérusalem par les prophètes Haggai, Zechariah et Malachi, en français Haggai, Zacharie et Malachi. Et le prophète Haggai nous fait savoir que l'autel du Temple de Jérusalem avait été achevé le 24 Kislev. C'est donc le 25 Kislev qu'on a commencé à rétablir les sacrifices dans le Temple. Et donc, chaque année, les Juifs festoyaient le 25 du mois de Kislev pour fêter le rétablissement du culte de Jérusalem à l'époque du deuxième Temple. Donc, Antiochus, découvrant que les Juifs font une fête d'inauguration, inauguration en hébreu, Hanouka, font une fête d'inauguration le 25 Kislev, décide d'inaugurer son temple païen le 25 Kislev, et le culte est rétabli par les Hashmonaïm également le 25 Kislev. Bon, tout cela est très joli, mais vous devinez tout de suite la question que ça fait à nouveau poser. Pourquoi est-ce que les prophètes nous ont dit d'inaugurer le deuxième temple le 25 Kislev? Eh bien, la réponse est très simple, c'est que c'était la fête de la lumière. Or, le rétablissement du deuxième temple était pour les prophètes comme l'allumage d'une bougie dans un monde obscur. Parce que depuis la destruction du premier temple, le monde dans son ensemble est tombé dans l'obscurité. Un monde dans lequel il n'y a plus de révélation de Dieu est un monde obscur. Rétablir le culte de Jérusalem, c'était allumer des lumières dans l'obscurité. Or, le 25 du mois de Kislev, il y avait déjà une fête. Il y avait une fête de la lumière. Pourquoi une fête de la lumière? Tout simplement parce que il y a dans la Torah, et là ça va demander de faire un petit effort d'étude, il y a dans la Torah un commandement qui est d'amener les prémices au temple de Jérusalem. C'est quoi les prémices? Si vous avez un verger avec des arbres fruitiers, eh bien les premiers fruits de vos arbres, vous devez les amener au temple. C'est ce qu'on appelle les bikurim, en français les prémices. Et la date de l'année à partir de laquelle on peut amener les prémices, c'est la fête de Shavuot, la fête de la Pentecôte. C'est là qu'on amène les fruits, les premiers fruits à Jérusalem, mais pas toujours les fruits sont prêts pour la fête de Shavuot. Certains fruits n'apparaissent qu'aux alentours de la fête de Sukkot, quelques mois plus tard. Et certains fruits n'apparaissent qu'après la fête de Sukkot. Par exemple, l'olivier ne donne ses olives qu'après le début de l'hiver, dans la période actuelle. Et donc, on pouvait amener encore ces olives au temple jusqu'au 25 du mois de Kislev, qui est la fin de la récolte des olives. Une société agricole comme celle de nos ancêtres à l'époque du premier temple fêtait certainement l'engrangement des olives par une fête correspondant à la lumière, à l'allumage de l'huile, peut-être même des beignets, et peut-être même jouer avec une toupie, parce que comme c'est l'hiver et qu'on reste à la maison, qu'est-ce qu'on va faire le soir? Ben, on va jouer à la toupie. Donc on peut dire que certains éléments de la fête de Hanouka, cette fête de lumière, existaient bien avant la révolte des Maccabées. Mais on peut se poser une question. Mais alors, qui est le premier être humain à avoir fêté la lumière à partir du 25 du mois de Kislev? Eh bien, c'est très surprenant, le Talmud nous dit que le premier à avoir fêté la lumière n'était autre que le premier homme, Adam, Adam Arishon, qui, c'est raconté de manière un peu comme une fable, si vous voulez, dans le traité Avodah Zara dans le Talmud, on nous raconte que le premier homme a fait son péché d'avoir mangé l'arbre de la connaissance, c'était le jour de la fête de Rosh Hashanah, à peu près au début de septembre. Et puis, après sa faute, quand il est renvoyé du jardin d'Éden, il se rend compte que l'obscurité commence à envahir le monde. Les jours se raccourcissent, la nuit s'allonge. Effrayé, il ne connaissait pas le phénomène, il s'imagine que l'obscurité va engloutir le monde à cause de son péché. Et alors, il fait 8 jours de jeûne et de prière, en pleurant. Et puis arrive le solstice d'hiver, c'est-à-dire 21-22 décembre, il se rend compte, après 2-3 jours, que la lumière commence à augmenter. Et c'est alors qu'il comprend que c'est un cycle naturel, et donc il arrive à peu près aux environs du 24 décembre au soir, et fait une fête de 8 jours pour fêter la lumière. Et le Talmud nous dit, cette fête de 8 jours, inaugurée par le premier homme, est devenue une fête idolâtre, les Saturnales à Rome, ce qui a donné beaucoup plus tard la fête de Noël chrétienne. Mais d'après le Talmud, l'origine se trouve dans une fête à l'origine de l'humanité qui fêtait la lumière. Or, le 24 décembre, de manière moyenne, tombe également le 25 qui se lève. Donc on peut dire que le premier à avoir fait une fête de la lumière était le premier homme, ce qui accentue l'aspect universel de cette fête. Vous voyez donc que la fête de Hanouka et la fête, les Avdil, des Saturnales, qui est devenue par la suite la fête de Noël, ont une origine commune. Le fait que l'on remarque qu'à partir de ce moment-là, la lumière commence à augmenter dans le monde. Eh bien, ça veut donc dire que le premier à avoir fêté la lumière dans le monde à partir du mois de Kislev n'est pas le premier homme, mais le créateur du monde lui-même. C'est le créateur qui a décidé qu'il y aurait plus de lumière dans le monde à partir du 25 Kislev. Surprenant, si vous comptez les mots de la Torah en hébreu, et que vous cherchez où se trouve le mot « lumière », eh bien vous découvrirez que c'est le 25e mot de la Torah. Et que c'est dans le 3e verset, ce qui correspond au 3e mois de l'année. On peut donc dire que dans l'ordre du cosmos voulu par le Créateur, la fête de Hanouka a son sens. Et ça veut donc dire que les fêtes transmises par le peuple d'Israël ont une origine ontologique, comme on dit, c'est-à-dire une origine dans l'être du monde. Et ce n'est pas pour rien donc que nos ancêtres ont purifié le temple le 25 du mois de Kislev. Remarque importante sur le plan historique. Le 25 Kislev de l'année 1917 au XXe siècle, c'est la première fois que le général anglais Allenby a dormi à Jérusalem après en avoir fait la conquête. C'est-à-dire que la fête de Hanouka a traversé l'histoire pour rétablir l'indépendance d'Israël. En effet, la conquête britannique de la Palestine de l'époque, c'était la première concrétisation de ce qu'on appelle la déclaration Balfour, cette déclaration qui a permis aux Anglais de recevoir le mandat sur la Palestine pour y fonder un foyer national juif. Eh bien, donc la fête de Hanouka transcende l'histoire depuis les origines, depuis la création de la lumière jusqu'à l'état d'Israël actuel et son message pour l'ensemble de l'humanité. Il y a dans la fête de Hanouka un motif très important, celui des lumières que l'on allume à l'entrée des maisons, à la porte de la maison. Et cette lumière est allumée au moment du coucher du soleil. Au moment du coucher du soleil, avec très peu d'huile, ça doit suffire pour une demi-heure seulement, avec n'importe quelle sorte d'huile et avec n'importe quelle sorte de mèche. Ce qui veut dire que ça peut même être une mauvaise huile qui va s'éteindre. Et puis ça arrive au moment de l'obscurité, et puis très rapidement ça s'éteint. On peut dire la fête de Hanouka, c'était la dernière illumination du peuple d'Israël avant son départ pour l'exil. L'exil est figuré par la nuit. Mais nous illuminons la nuit de l'exil, parce que nous avons l'espérance que le monde entier un jour comprendra la parole qui passe à travers Israël et qui est différente dans sa nature de ce que la philosophie propose. La philosophie propose une connaissance extérieure de l'être, elle va définir les catégories dans lesquelles on peut comprendre quelque chose, mais elle ne touchera pas à l'essence même de l'être. Pour connaître l'essence de l'être, il faut entendre la parole du Créateur. Et cette invitation à entendre tous ensemble cette parole qui sort de Sion et de Jérusalem, eh bien, tout cela commence avec la fête de Hanouka et s'achève dans la perfection par votre collaboration, vous autres Noachid, à la connaissance de Dieu qui doit se répandre dans la terre tout entière pour le bonheur de l'ensemble de l'humanité. Bonne fête de Hanouka et j'espère vous retrouver très bientôt à Jérusalem, mais auparavant au séminaire Noachid qui se tiendra le 15 décembre 2013 dans la ville de Lyon. Vous pouvez trouver les informations sur notre site. Shalom.